France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Charlotte Piret.
Au début de l'histoire, il nous est tombé dessus du jour au lendemain lors de l'instauration du confinement ce 17 mars 2020. Alors, on a fait de la place, repoussé la pile de paperasse, trouvé un siège à peu près confortable, installé une lampe, sorti la multiprise. On a un peu tâtonné aussi les réunions en visioconférence et les problèmes de caméra, micro indésirable, arrière-plan qu'on aurait préféré cacher, la communication avec les collègues plus rêche par message qu'à la machine à café. Et puis, on y a vite pris goût, la perte de temps de trajet soudainement envolée, le linge qu'on peut étendre à l'heure de la pause café, le colis qu'on récupère à celle du déjeuner. Sans compter ceux qui ont vu l'opportunité d'un changement de vie radical, déménagement à la campagne, réajustement de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Alors bien sûr, le confinement n'a pas duré, mais le télétravail est globalement resté. J'ai appris en préparant cette émission que si l'on doit dresser son portrait robot, le télétravailleur est une femme trentenaire qui travaille dans la administratif et les télécommunications. Mais bien au-delà, le travail à distance est désormais considéré par nombre de salariés comme un acquis. À tort, c'est ce qu'on va explorer avec vous justement, car la nouvelle tendance de fond est plutôt au retour au bureau. Amazon, Tesla, JP Morgan outre-Atlantique, mais aussi en France, avec la grève retentissante des salariés de la Société Générale, auquel il a soudainement et tout récemment été annoncé une limitation du télétravail, un jour par semaine maximum, quand plus de 70% des salariés en disposaient d'au moins deux. On peut aussi citer Ubisoft, Stellantis, Michelin, qui sifflent la fin du TT généralisé, non sans difficulté. Car le flex-office s'est passé par là. Plus assez de bureaux pour tout le monde par endroit. Bref, télétravail, est-ce la fin de la parenthèse Covid? Venez nous le dire, ce que vous en pensez, comment vous le vivez, si vous le craignez. 01 45 24 7000 par téléphone ou WhatsApp, c'est possible aussi par mail. Et sur l'appli France Inter, c'est le téléphone sonne et vous êtes les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour démarrer, on accueille Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous nous appelez d'Angers, on vous écoute.
Oui, tout à fait. Moi, je m'interroge sur le besoin, par rapport au télétravail, sur le besoin de contrôle des managers ou des fameux N plus 1. Est-ce que ça veut dire pour eux, alors que l'attachement au travail a changé depuis le Covid, que les jeunes peuvent avoir un rapport un peu différent maintenant à l'entreprise que par rapport au passé? Nous, tout simplement, sur Angers, on est une petite entreprise. Le contrôle existe, mais il n'empêche pas l'épanouissement professionnel. Et puis, ça permet de faire du télétravail de qualité et respectueux à la fois pour les personnes que l'on rencontre sur le terrain, parce qu'on fait du compostage de proximité, mais également pour les collègues d'entreprise. Du coup, je voulais savoir, est-ce que ce contrôle des managers, ce besoin de contrôle, de surcontrôle, c'est une vraie problématique pour cet arrêt annoncé du télétravail?
Merci beaucoup, Nicolas, pour votre témoignage. Vous-même, vous pratiquez le télétravail régulièrement?
On le pratique régulièrement. Dès lors qu'on a besoin de faire du reporting sur une fois qu'on allait voir un site de compostage, eh bien, il faut faire un retour d'expérience sur les personnes que l'on a rencontrées et du coup tout répertorier. Et donc, on fait du télétravail à ce moment-là. Oui, c'est possible.
Et vous avez senti une tendance au recul du télétravail par rapport à l'immédiat de l'après-Covid ou est-ce que c'est resté stable?
Non, c'est resté stable. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça, justement. C'est pour ça que moi, ça m'a interpellé. Ces acquis-là, un petit peu comme ça m'interpelle aussi ce retour là sur les, mais c'est un autre sujet, sur les deux jours fériés qui sont annoncés défériarisés.
Oui, on en parlait hier de cela. Merci beaucoup en tout cas Nicolas pour votre témoignage et vos questions. J'ai vu au moment où vous l'abordiez que nos deux invités en studio hochaient simultanément de la tête, alors on va les accueillir avec vous. Emmanuel Lavignac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire fédéral FSE-CGT et vous êtes spécialiste de ces questions de télétravail, de travail hybride, etc. Jean-Claude Delgène, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur du cabinet de prévention des risques professionnels Technologia et vous avez votre dernier ouvrage s'appelle Faire face aux risques psychosociaux. Il est publié aux éditions Erol, mais vous avez également écrit sur le retour au bureau ou sur Oser le télétravail. On verra d'ailleurs parce que j'ai été surprise que vous ayez les deux ouvrages quasiment publiés en même temps. Alors peut-être pour répondre d'abord à Nicolas d'Angers, la première chose, est-ce que effectivement on a ce recul du télétravail? Lui dit que à son échelle non, mais que quand même il le constate plus largement. Jean-Claude Delgène, peut-être.
Oui. Alors, vous l'avez un peu, vous avez déjà un peu répondu à cette question en expliquant comment, en fait, le télétravail a pénétré dans nos vies par effraction. En fait, la France avait beaucoup de retard en matière de télétravail jusqu'en mars 2020. Et en mars 2020, du fait du confinement, il a fallu effectivement tous tomber dans la piscine. Vous l'avez très bien expliqué. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le management n'était pas du tout préparé à cette évolution. Y compris, il faut le dire, Madame Borne, qui est à l'époque ministre du Travail, a dû faire, pour imposer, je dirais, le télétravail, entre 1000 et 5000 contrôles par l'inspection du travail pendant plusieurs mois. On a inventé un nouveau délit, pour vous dire simplement la réticence des employeurs pour aller vers le télétravail. Et effectivement, les managers n'étaient pas prêts, et, y compris ce que l'on peut dire avec le recul, c'est que même depuis cette date, depuis 2020, on a guère vu de formation réelle pour le management, pour aider à gérer au mieux. Or, on a un management à la française qui est très Louis XIVien.
Très vertical.
Très vertical, qui descend, un peu autoritaire, un peu, vous voyez, qui n'est pas du tout dans l'empathie, dans la confiance, dans le soutien à distance. Donc, quand vous avez les gens qui sont loin et que, en fait, vous ne pouvez pas les contrôler d'un regard... quand vous êtes avec 15 personnes à peu près dans le même étage, vous pouvez contrôler les gens, vous pouvez les voir, voir comment ils sont, etc. C'est assez simple. Mais quand vous n'avez pas cette possibilité-là, que les gens soient à distance, eh bien, effectivement, ça devient difficile. Et vous avez en ligne, vous avez des pertes de productivité en ligne, vous avez des problèmes, y compris pour les managers eux-mêmes, qui sont dans une très grande difficulté, il faut le dire les choses, parce qu'ils n'ont pas été préparés. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et donc, ça se passe sous l'angle du contrôle abusif souvent. Alors heureusement, la réglementation a encadré tous les logiciels de surveillance, etc. Mais malgré tout, on a eu ces dérives-là aussi.
Mmh. Emmanuel Lavignac, finalement, notre auditeur, quand il parle du des problèmes managériels, il met le doigt directement sur le nœud du problème. Ou est-ce que c'est un peu plus vaste que ça, et est-ce qu'on peut aussi parler d'une culture française qui n'était peut-être pas tout à fait prête? Je repense à cette phrase de Nicolas Sarkozy en 2023 qui avait dit « Quand je pense au télétravail, je pense que c'est de la télé et pas du travail ». Ça en dit long aussi.
Oui, c'est un propos complètement démagogique, mais d'autant plus que, en plus de faire partie de FSE-CGT, je suis secrétaire nationale de l'UGICT, l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens. Et le paradoxe du télétravail, c'est que c'est compliqué pour les managers de manager une équipe en télétravail en même temps qu'une équipe en présentiel, mais ils sont majoritairement eux-mêmes en télétravail. Donc en fait, c'est un sujet qui concerne vraiment les équipes managériales. Mais après, quand on dit problème de manager, oui et non, c'est pas tellement le problème du manager, le N+2 que vous avez au travail, c'est des problèmes des directions d'entreprise, en fait, qui ne permettent pas, qui n'ont pas formé. Nous, on fait une enquête à l'UGIC Télétravail où on pose la question, on leur a posé la question, est-ce que vous avez été formé à l'organisation en télétravail? La réponse est majoritairement non. Ou alors en e-learning rapidement. Donc en fait, il y a un vrai souci de formation et d'acceptation sur le fait que le télétravail, ça n'est pas qu'utiliser une technologie, c'est une organisation du travail. Et cette organisation du travail, effectivement, en France, on a des grosses réticences, mais pas qu'en France, en Europe aussi. Il faut savoir que le MEDEF est une organisation patronale qui a permis, ou en tout cas empêché, qu'on ait une vraie directive contraignante européenne sur le télétravail, concrètement.
Finalement, quels sont les défis particuliers d'un manager dont le salarié est en télétravail? C'est arriver à maintenir un niveau de communication régulier avec son salarié, savoir où il en est? Est-ce que c'est aussi pouvoir lâcher prise d'une certaine manière et lui faire confiance même s'il n'est pas sous ses yeux? C'est de cet ordre-là, finalement, les défis que rencontrent les managers pour les salariés en télétravail?
Alors, en réalité, nous, ce qu'on nous remonte, c'est pas tellement ça. C'est plutôt qu'aujourd'hui, justement, le télétravail, il est hybride. Il y a très, très peu de télétravail à 100%. C'est à peu près 4%
autour
des télétravailleurs.
De 4%, ouais.
Donc, en fait, on est sur du télétravail en présentiel, 3 jours, et 2 jours en moyenne en télétravail. Donc, pour un manager, c'est plutôt essayer de composer les équipes en présentiel, les équipes en télétravail, la rotation, la planification, assez simplement, en fait. Et c'est ça. Et sinon, effectivement, quand vous avez vraiment des télétravailleurs, travailleurs éloignés qui ne reviennent jamais sur site. Oui, la difficulté, c'est de savoir de reconnaître les signaux faibles. Si par exemple un salarié est en souffrance, essayer de trouver comment l'aider. La communication aussi écrite, qui n'est pas la communication verbale, donc et essayer de ne pas être non plus dans le surcontrôle. Donc c'est vrai que il faudrait des vraies formations là-dessus.
Je vous propose qu'on accueille Agnès. Bonsoir Agnès.
Oui, bonsoir.
Je crois que vous aviez quelque chose à nous dire justement aussi sur la souffrance que peut induire le télétravail.
Oui, alors voilà, donc au moment du Covid, moi je vis seule, hein, donc ça m'a beaucoup appris, hein, le télétravail, ça m'a permis de rester en contact avec mes collègues, etc. Mais après, quand on est revenu progressivement à la normale, on avait quand même 2 jours de télétravail par semaine. Et je trouve que le télétravail, ça peut isoler, parce qu'il y a des tas de petites informations informelles, relationnelles. On est quand même des êtres de relation, même si on travaille, même si on doit produire, etc. Et moi, ça m'a manqué, c'est-à-dire de toutes ces conversations ou ces échanges informels qu'on a en allant chercher quelque chose à l'imprimante, en allant apporter un livre à un collègue journaliste, etc. Ça manquait dans mon métier qui était d'être en relation avec les lecteurs et au courrier des lecteurs. Donc voilà, donc c'est quand même je pense qu'il faut un peu de souplesse dans le télétravail parce que bien sûr les managers aiment bien avoir leurs ouailles sous leur aile en présentiel, mais les outils logiciels permettent de fliquer entre guillemets énormément aussi, c'est-à-dire que les conversations peuvent être enregistrées, à la seconde près, on sait ce que vous faites. Enfin, voilà, il y a des. Donc, tout ça demande de la nuance. J'ai écouté un peu ce qui a été dit précédemment avant que vous me passiez à l'antenne. Effectivement, il y a un problème de formation aussi des managers et surtout de la direction d'entreprise.
Merci beaucoup, Agnès. Jean-Claude Delgen, effectivement, cet isolement, le manque de cohésion sociale, c'est quelque chose qui est aussi avancé dans les entreprises qui ont fait le choix du recul, du télétravail. Les interactions, elles sont nécessaires dans une entreprise.
C'est très vrai ce que vient de dire votre auditrice, c'est qu'effectivement, on l'oublie, mais il y a 9 millions de personnes qui vivent seules en France. Et ces 9 millions, il y en a la moitié qui travaillent. Donc si vous rajoutez effectivement l'isolement à la solitude, ça peut être difficile à porter. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le vrai sujet, effectivement, c'est comment gérer un salarié à la fois en mode présentiel et en mode à distance pour ne pas perdre en, ce qu'on appelle en créativité, en sérendipité, c'est un mot un peu barbare, mais qui veut dire que très souvent, on découvre des choses sans les chercher. Par exemple, Christophe Colomb a découvert l'Amérique sans la chercher. Vous voyez, mais la créativité, c'est ça.
Bien sûr.
Voilà, et on peut perdre donc en sérendipité et on peut perdre en intelligence collective. Toutes les études montrent cela, à condition, je dirais, pour lutter contre cette tendance-là, il faut donc réenchanter les lieux de travail, permettre aux gens, quand ils viennent au travail, de ne pas venir pour être derrière leur écran à faire du télétravail. Parce que c'est ce qui se passe, en fait. Les gens soit télétravaillent chez eux, soit télétravaillent au bureau. Voyez ? Et donc, on ne sait pas, en fait, organiser les choses de telle manière à ce que quand ils viennent au bureau, ils voient d'autres...
On profite de cette présence pour plus de cohésion.
Il faut effectivement organiser des rencontres, faire en sorte que les gens se croisent. Il y a tout un planning à faire pour éviter que les gens, effectivement, ne se voient plus. Parce que c'est vrai que si vous mettez 2 jours par semaine les gens en télétravail, au final, vous avez des bandes passantes pour se connecter qui disparaissent. Et ça, ça peut être dangereux. Hein, puisque, à un moment donné, les gens se croisent mais ne se rencontrent plus. Donc, il y a toute une gestion, ça a été très bien dit par Emmanuel tout à l'heure, il y a toute une gestion à mettre en place au niveau logistique, au niveau des timings, au niveau par exemple des jours de télétravail pour éviter justement qu'on ne soit dans une logique d'isolement. Parce qu'effectivement, et ça a été dit aussi, quand vous êtes loin des yeux, vous êtes loin du cœur, vous avez moins de promotion, vous avez moins d'informations sensible et donc vous bénéficiez de moins d'avantages. Et souvent d'ailleurs quand vous êtes trop en télétravail, nous on a fait plusieurs études à Technologia, y compris avec les partenaires sociaux là-dessus, on voit que quand vous êtes trop en télétravail, ben vous êtes les premiers à sortir de l'entreprise.
Mais y compris parce que effectivement, vous le disiez Emmanuel Lavignac, on est globalement sur un modèle qui est celui de l'hybride en réalité avec 2-3 jours de télétravail par semaine. C'est vrai aussi l'isolement, le risque de rater de la promotion, etc. Quand on a 1 ou 2 journées de télétravail par semaine,
sûr,
vous pensez ?
Bien sûr. Il y a des gens qui ne souscrivent pas au télétravail, qui sont là en permanence. Et puis, si vous voulez, c'est compliqué de faire valoir votre production quand vous êtes 2 jours en éloignement. C'est pas toujours simple de montrer que vous avez fait le travail. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Et donc, c'est pour ça qu'il faut repenser les modes de management, favoriser de l'expérience collective, de la productivité collective, parce que le télétravail, en fait, alterne altère, si vous voulez, la productivité collective, pas la productivité individuelle. La personne qui est chez elle, qui est concentrée, qui gagne une, voire deux heures de trajet par jour, elle va être productive. Ceci dit, en interaction systémique avec les autres, elle risque d'être perdante et le groupe risque d'être perdant. Et c'est cette productivité collective qui conduit les employeurs aujourd'hui à dire, attention, il y a eu différentes études qui l'ont montré aux États-Unis, au Japon, etc. On perd entre 18 et 25% de productivité collective. Donc c'est quand même beaucoup. Et donc il faut remédier à ça. On peut y remédier en gérant véritablement l'activité, faire en sorte que les gens se rencontrent, faire en sorte que les gens... Et ça, il faut réenchanter les lieux de travail.
Je vous propose qu'on accueille Sarah. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
On vous écoute, soyez la bienvenue.
Merci. En fait, je me posais la question du lien aussi avec le système de promotion interne qui a fonctionné, qui fonctionne encore dans beaucoup d'entreprises, où finalement la progression de junior à senior passe par le management intermédiaire, dont la fonction c'est quand même beaucoup de dénaturer avec le télétravail et l'éparpillement des équipes. Et aussi l'idée même que devenir manager d'une équipe de 5 personnes, puis de 10 personnes, peut-être aussi intéresse moins une part des nouvelles générations. Alors est-ce que le clivage se fait à plus de 40, moins de 40, je ne sais pas exactement, mais ce côté de avant, manager son équipe, c'était l'ascension normale, naturelle en interne, et maintenant les gens aspirent à autre chose, de façon peut-être plus transverse, peut-être plus de télétravail, et que au-delà du télétravail, c'est aussi le système de promotion interne qu'il faut peut-être repenser pour redonner envie aux gens.
Merci beaucoup Sarah. Emmanuel Lavignac, effectivement, est-ce que notamment dans les nouvelles générations, hein, comme Sarah nous le dit, est-ce qu'il y a une bascule des priorités, hein, finalement dans l'adhésion au travail? Est-ce que c'est l'accession à des postes de management, ou est-ce que c'est plutôt aussi une qualité de vie et une bascule vie professionnelle, vie personnelle, qui est tout l'enjeu du télétravail aujourd'hui?
Oui, alors je pense qu'il faut tout simplement revenir aux aspirations des travailleurs et savoir pourquoi ils aiment le télétravail, puisque effectivement toutes nos enquêtes que l'on fait avec l'Observatoire du télétravail, c'est notre deuxième, et on est à peu près sur de 60 à 80% de télétravailleurs et télétravailleuses qui veulent rester en télétravail. Donc on ne peut pas juste dire que c'est quelque chose qu'il faut balayer. Et d'ailleurs, la résistance, vous en avez parlé, hein, de la société, des salariés de la Société Générale ou d'Ubisoft qui ont fait des grèves, la première grève de l'entreprise, hein, pour garder du télétravail, ça veut dire quelque chose. Donc de toute façon, le patronat doit s'habituer à ce mode de travail qui ne changera pas, parce qu'il y a une vraie volonté. Mais cette volonté, pourquoi? C'est deux choses. On parle des jeunes. Les jeunes aujourd'hui, il y a une difficulté financière déjà. Difficulté de logement. Dans les grands centres urbains, pour habiter dans un centre urbain, c'est quand même compliqué. Donc le télétravail permet aussi de s'éloigner des centres urbains saturés. Il y a aussi, donc je parlais des problèmes financiers, des problèmes de salaire, donc on va s'installer un peu plus loin. Et puis il y a aussi la fuite des organisations de travail sur site qui sont toxiques. L'employeur, depuis le Covid, a utilisé le télétravail, il ne faut pas oublier, pour réduire les espace de télétravail, installer du flex office. Donc vous êtes
à moins d'un bureau par personne,
à moins d'un
désormais,
bureau, par personne.
C'est 0,7 par exemple, la Société Générale dont on parlait.
Exactement. Donc c'est plus faible.
Et c'est pour ça que les salariés d'ailleurs de la Société Générale ont fait une journée d'action qui est très originale, parce qu'ils n'ont pas choisi d'arrêter de travailler, ils ont choisi de saturer l'espace de travail.
De tous
ils
venir ont fait travailler tous
sur
même
site.
Jour.
On vient tous travailler, vous nous dites qu'on doit arrêter le télétravail, et vous n'êtes pas capable de nous garder sur site, il n'y a pas assez de place pour l'effectif. Donc ça c'est quand même important. Donc des conditions de travail dégradées qui font fuir les travailleurs, c'est plus une question d'âge, hein, d'ailleurs. C'est d'abord ça qu'il faudrait regarder. Les vraies raisons qui font qu'on préfère télétravailler. Je finirai juste sur une chose, hein, c'est que ce qui ne plaît pas non plus au niveau des grandes entreprises, en tout cas en France, c'est que le télétravail est choisi pour mieux articuler vie professionnelle, vie personnelle, au profit de la vie personnelle. Et ça, c'est nouveau dans l'organisation du travail et tel qu'il est construit par les employeurs, qui font en sorte que votre vie, ou avant, on l'a toujours fait en fonction du travail. Là, on peut arriver à moduler. Et ça, ce contrôle plus général qui échappe, c'est ça aussi le problème. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez sur la productivité, baisse de productivité, on n'est pas non plus complètement sûr de ça. Les études ne sont pas... D'abord, on parle des États-Unis, on n'est pas en France. Donc en fait, en plus, toutes les explications des employeurs en disant on va être moins productif...
sur le modèle américain.
Ouais. C'est très, 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 très ambigu, et on a aucune certitude vraie là-dessus. Hein, même si je rejoins...
Sur les avantages, et évidemment, je vous donne la parole. Sur les avantages, il y a également certaines études qui montrent une amélioration de la santé au travail, de la diminution gestion du stress, pardon, eu égard par exemple au temps de transport qui diminue, ce genre de choses, ça joue en faveur d'une meilleure productivité quand même, in fine.
Je vais répondre à ça, mais avant je voulais répondre à la question qui était très intéressante sur la prise de responsabilité. Ce que l'on constate, c'est, ça n'a rien à voir avec le télétravail. Aujourd'hui, on constate de plus en plus de la part des salariés le fait qu'ils sont très regardants à prendre des responsabilités. Mmh. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est beaucoup d'emmerdement, il faut dire les choses, c'est beaucoup de tension, beaucoup de stress, et c'est peu de valorisation salariale. Vous prenez un directeur de banque aujourd'hui dans une agence, il y a quelques années, c'était vraiment un cador, c'était un bourgeois, c'était un homme, un notable qui comptait dans... Aujourd'hui, bah, il est à peine mieux valorisé que les gens qui l'encadrent. Vous voyez, donc, on a de ce point de vue-là une réponse à apporter pour revaloriser, y compris la prise de responsabilité, ce qui n'est pas vraiment fait. Et deuxième aspect, sur la question des avantages, oui, les avantages sont très nombreux au niveau du télétravail. Un avantage considérable, c'est l'augmentation de salaire que ça procure. Quand vous êtes en télétravail, vous n'avez pas, par exemple, vous n'êtes pas à une heure et demie de votre lieu de travail. Vous pouvez déposer vos enfants à l'école, vous pouvez les récupérer le soir, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez effectivement éviter de prendre la voiture et être dans le chaos des embouteillages. Vous pouvez éviter de prendre le métro et d'être dans la moiteur des transports en commun. Vous voyez, donc, vous avez des tas d'avantages. Vous avez des avantages aussi, on ne le dit pas, mais c'est très important pour moi, en tous les cas, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les études montrent, il y a une expérience très intéressante qui a été faite à Atalante, près de Rennes, par le groupe France Télécom. Ils ont simplement, sur un an, ils ont regardé combien ils avaient pu économiser d'émanation dans le gaz à effet de serre, et ça aboutit à 65 millions de mètres cubes de gaz toxique qui n'a pas été déversé dans l'atmosphère. 65 millions sur une expérience qui touchait 657 salariés. Vous voyez, donc c'est fondamental de dire tout cela. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord, on ne pourra pas revenir sur le télétravail. Il faut simplement penser le télétravail au carré. Il faut vraiment aller vers une autre organisation avec des managers qui soient vraiment formés, et puis réenchanter les lieux de travail. Aujourd'hui, les lieux de travail sont toxiques. Parce que le flex-office, on ne l'a pas dit, mais c'est une intensification très forte des espaces de travail, puisque tout le monde, malgré tout, vient.
Beaucoup plus de monde sur un espace
donc,
plus restreint.
Voilà. Alors après, une dernière chose sur la question de la santé, il faut faire attention parce qu'il faut que les salariés qui sont en télétravail bougent. C'est une question de sédentarité. La sédentarité, ça fait 50 000 morts chaque année en France. Il faut vraiment bouger pour éviter d'être dans une logique où on a tous les effets cardiovasculaires qui sont liés au manque de mouvement.
France Inter. Le téléphone sonne.
Vous écoutez bien, le téléphone sonne, vous êtes sur France Inter, on parle télétravail et recul du télétravail avec Emmanuel Lavignac et Jean-Claude Delgène, et on accueille Alexia. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, soyez la bienvenue.
Merci de prendre mon témoignage. Je souhaitais intervenir ce soir puisque moi je travaille dans une entreprise qui propose du 100% télétravail. Donc c'est un nouveau mode de travail qui pour moi est vraiment moderne et adéquat, qui est très 2025.
C'est quoi comme type d'entreprise ?
Alors c'est une entreprise qui fabrique un logiciel et qui propose un logiciel viticole à destination des vignerons. Et donc, on est tous 100% en télétravail, localisés dans différentes régions de France. Et pour revenir un petit peu sur les différents points qui ont été abordés lors de l'émission, je voudrais quand même rassurer les managers notamment. Pour avoir expérimenté les deux modes de travail dans ma vie, plutôt classique et donc en 100% télétravail, on observe quand même, tant pour l'entreprise que pour le salarié, qu'on est quand même beaucoup plus productif, contrairement à ce qu'on peut penser, en télétravail, puisque du coup, on gagne un temps fou, effectivement, dans les transports, dans les temps de pause, etc. On gagne aussi en qualité de vie. Du coup, en concentration, on est beaucoup plus satisfait de son travail également. Et au niveau des interactions, alors moi, j'ai pas du tout ce sentiment d'isolement, puisque justement, mon entreprise a su mettre en place un certain nombre de canaux de communication qui fait qu'on est effectivement en contact toute la journée les uns avec les autres. Et au contraire, je nous trouve être une équipe très rapprochée et ça crée un sentiment justement de confiance. Donc les managers ont confiance en nous et on a confiance en eux également et dans le reste des équipes. Donc je trouve au contraire que c'est un mode de travail qui devrait être davantage valorisé et qui devrait davantage être proposé parce que ça peut créer de très belles expériences aussi dans le monde du travail justement.
Et si jamais, alors je ne vous le souhaite pas forcément, mais s'il était question d'un recul du télétravail, même de quelques jours par semaine, pour vous ou pour vos collègues, est-ce que vous pensiez que vous le seriez prêt à l'accepter ou au contraire ça pourrait être un motif de démission, hein. Il y a une étude Opinionway de novembre 2023 qui parle de 31% de salariés prêts à quitter leur entreprise. Le télétravail télétravail leur était refusé. Comment vous le vivriez, même si on est au conditionnel, bien sûr?
Alors aujourd'hui, très honnêtement, justement pour avoir expérimenté ce mode de travail, je n'imagine pas revenir en arrière. C'est vrai que j'imagine pas revenir à une vie de bureau relativement classique et perdre plus de, je crois que les Parisiens perdent plus de 45 minutes, une heure par jour dans les transports. C'est vraiment pour moi là du temps de perdu. Et très honnêtement, oui, non, c'est vraiment un mode de travail. Je pense pour le reste de mon équipe, on est très satisfait de ce mode-ci. Ouais. Mais là encore une fois, ça dépend vraiment d'un management plutôt horizontal plutôt que vertical. Ça c'est sûr que ça demande aussi aux managers de se former et de faire confiance à leurs salariés, tout à fait.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Alexia. Emmanuel Lavignac, effectivement, ça peut devenir une condition sine qua non aussi de l'adhésion au travail que la possibilité de pouvoir faire du télétravail.
Oui, pour toutes les raisons qu'on a dit avant, c'est-à-dire que tant que le travail en présentiel ne sera pas valorisé déjà financièrement et puis aussi dans des bonnes conditions, on aura toujours de toute façon l'envie de fuir des ambiances de travail délétères. Y a ça, et puis aussi, c'est vrai que la technologie donne la possibilité.
Alors j'allais y venir, et effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles je posais la question à notre auditrice. Le télétravail n'est pas ouvert à tous les métiers, bien sûr, et ça reste quand même une frange limitée de la population. Rappelons-le.
Alors oui, effectivement, pour l'instant, c'est majoritairement les ingénieurs, cadres techniciens, les professions intermédiaires. Tous les métiers n'ont pas accès au télétravail, mais c'est la raison pour laquelle nous, on demande en tout cas dans les entreprises où il y a du télétravail, les grandes entreprises, si à partir du moment, parce que c'était quand même le but au début, ce qu'on nous disait, c'est que de garder la productivité, s'il y a de la productivité grâce au télétravail, il faut qu'il y ait un partage des richesses à tout le monde, même les personnes qui sont dans l'entreprise, mais ne télétravaillent pas.
Ça a été un sujet notamment quand on abordait la question du flex office, les économies faites sur la diminution des bureaux, etc. Il y a certaines voix qui se sont élevées pour dire qu'effectivement cette richesse-là, elle n'avait pas été redistribuée. Je vois que vous acquiescez, Jean-Claude Delgène.
Oui, en fait, parce qu'un poste de travail, en fait, en présentiel, ça coûte 13 000 euros à peu près, 13 à 14 000 euros annuels pour chaque salarié. Donc, il y a eu des économies considérables puisque le budget, en fait, immobilier, locaux, etc., c'est le deuxième poste de l'entreprise. Et donc, en fait, les employeurs ont eu le spleen des bureaux vides quand il y a eu, en fait, la mise en place du télétravail sur lequel ils se sont quand même beaucoup ils se sont mobilisés contre, faut dire les choses. Et ils ont vu les bureaux vides, ils se sont dit, on va se refaire sur les surfaces. Pourquoi pas? Mais c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, ça a été dit par rapport à la Société Générale, on ne peut pas d'un côté prétendre faire des économies substantielles en restreignant les surfaces de bureaux. On est passé quand même de 2 millions à 4 millions de mètres carrés disponibles en région parisienne. On a doublé le nombre de mètres carrés disponibles en région parisienne, mètres carrés de bureaux, je précise. Vous voyez, on ne peut pas donc aller sur cette orientation-là et de l'autre côté dire, vous revenez tous au travail en présentiel, c'est contradictoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que la question du télétravail, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'est compliqué pour les organisations syndicales. Pourquoi ? Parce que l'organisation syndicale, elle doit parler à tous les salariés. Quand vous avez donc dans une entreprise des salariés qui peuvent bénéficier du télétravail et de l'autre côté, ceux qui ne peuvent pas, c'est quand même les deux tiers, en bénéficier, il y a quand même des frustrations qui montent de la part des salariés qui ne peuvent pas bénéficier de cela. Et ça, c'est une équation qui n'est pas simple à résoudre. Je ne parle pas du fait aussi de l'éloignement, parce que ça peut être aussi très gênant quand vous avez...
De ne plus avoir de contact avec les salariés, effectivement.
Pour les syndicats. Mais en tout cas, la question de... Alors aujourd'hui, en fait, on voit bien que... Je dirais la restriction du télétravail à un voire deux jours par semaine fait que cette frustration malgré tout est quand même en train de se résorber. À un moment donné, elle était très très sensible au niveau des équipes professionnelles. Aujourd'hui, elle se résorbe tranquillement en fait.
Il y a un point que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est la question des motivations cachées parfois du recul du télétravail, de plans sociaux déguisés. C'est comme ça que parfois certains le vivent ou en tout cas le dénoncent. Ouais. On a Elsa qui depuis le Québec nous écrit en disant « Est-ce que certaines entreprises ne se serviraient-elles pas de ce levier pour se départir d'une partie de leur masse salariale ? Évidemment, sans avoir à licencier puisque les gens ont changé de mode de vie et donc démissionnent tout à fait spontanément. Est-ce que ça, c'est une réalité aussi, Emmanuel Lavignac ?
Oui, on ne peut que l'imaginer, le penser. On l'a pensé déjà pour Ubisoft, qui avait des problèmes économiques et qui tout d'un coup a voulu faire revenir tous ses salariés sur site, alors qu'ils étaient plusieurs à avoir déménagé très très loin. Donc en fait, on a tout à fait compris que c'était une façon de se débarrasser des gens qui de toute façon ne pourraient pas revenir, ne pourraient pas changer de vie du jour au lendemain et retrouver un logement. Donc oui, on peut le penser. On peut le penser dans la façon brutale, justement, même pour la société générale.
Oui, c'est annoncé par un mail.
Voilà, la façon brutale d'annoncer cela, où ça donne l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire, qu'effectivement, du coup, on va devoir lâcher l'emploi. Oui, c'est certainement, pour ça, je ne dirais pas pour toutes, on ne le sait pas, mais c'est certainement un des motifs sérieux, oui.
Alors, effectivement, peut-être qu'on n'a pas précisé ça également pour nos auditeurs, ça arrive aussi maintenant, cette question, parce qu'on est globalement sur la renégociation de beaucoup d'accords cadres post-Covid, qui étaient pour la plupart sur 3 ou 4 ans et qui arrivent à échéance finalement.
Oui. En fait, avant mars 2020, vous aviez 390 accords selon la DARES qui avait été signée. Fin 2021, vous en avez plus de 4000. Donc, on a explosé. Alors, par rapport à ce que vous disiez sur la démission, c'est intéressant. Il faut comprendre aussi que dans quelle conjoncture on est. On est dans une période extrêmement difficile sur le plan économique, et donc ce pari risque de ne pas, en fait, se réaliser.
Pour les entreprises ou pour les salariés?
Le pari de dire, je vais restreindre le télétravail, comme ça les moins motivés vont s'en partir, iront. Et j'économise un plan social. Aujourd'hui, les salariés font leur compte, ils savent très bien que on n'est pas, à part ceux qui sont très formés et qui peuvent peut-être trouver facilement un job, il faut savoir que dans la période actuelle, descendre du train de l'emploi, c'est quand même hasardeux. Hein. Donc, et les salariés font leur calcul. Donc, il n'est pas du tout évident que ce pari un peu cynique, si tel est le pari, puisse réussir. Je pense qu'il y aura beaucoup de salariés qui réfléchiront à deux fois avant d'aller dans une logique de quitter leur emploi, parce que la période, elle va être très compliquée. La période qui vient sur le plan économique, le macroéconomie, on le voit avec toutes les tensions internationales, va être la période qui vient, les restrictions budgétaires, etc. Tout ça va être, dans les mois qui viennent, très compliqué. Et moi, j'invite tout le monde à la prudence.
Alors, plus que de télétravail complet, 5 jours par semaine, qui, on l'a dit, ne concerne environ que 4% des salariés en France, on a bien compris que le modèle dans lequel on était d'ailleurs déjà entré, vers lequel on s'achemine peut-être de manière un peu plus pérenne, c'est celui de solutions hybrides. Est-ce qu'il y a une solution idéale? Est-ce que c'est 1, 2, 3 jours par semaine? Est-ce que c'est évalué? Et est-ce que ça dépend d'une entreprise à l'autre? Est-ce qu'on arrive à avoir un petit peu de recul là-dessus, sur la quantité, finalement, entre télétravail et présentiel? Emmanuel Lavignac, je vous vois sourire.
Là, il faudrait que les entreprises, effectivement, déjà reconnaissent que c'est une organisation de travail, donc vraiment étudient les effets pour voir à peu près combien de jours sont supportables ou pas. Mais moi,
ce qui n'est pas le cas, vous trouvez, il n'y a pas assez d'études encore à ce stade?
Non, il n'y en a pas. La preuve, c'est que le seul réflexe, c'est de faire revenir les gens au bureau, si soi-disant il y aurait un petit peu de baisse de productivité, ce que je répète, n'est pas du tout évident, n'est pas prouvé, en tout cas pas en France. Mais par rapport à votre question, il est évident que là, aujourd'hui, le télétravail ne pourra pas faire l'économie d'une refonte, on va dire. Le plus important, c'est d'écouter, je pense, ce que disent les salariés. Et eux-mêmes ne cherchent pas à avoir plus de 1 ou 2 jours de télétravail. Oui. Toutes nos enquêtes le disent. 2 jours, c'est bien. On n'a pas envie de plus. Le télétravail à 100%, sauf pour les personnes qui l'avaient déjà, n'est pas réclamé. Donc je pense que finalement, assez naturellement, la jauge va s'arrêter sur ça, à peu près.
Jean-Claude Delgène, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce
sujet ? J'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là et j'ai toujours dit que, en fait, à une journée, on pouvait, voire 2 journées, ça dépendait de la nature des activités, on pouvait bénéficier de tous les avantages sans avoir les inconvénients. Mais après 2 journées, on a vraiment beaucoup d'inconvénients à gérer, à faire en sorte que les gens se parlent, se voient, créent ensemble, fassent destin, fassent communauté ensemble. C'est ça le vrai sujet, c'est la connexion aux autres. Or, le travail aujourd'hui reste le lieu d'appartenance sociale privilégié. Parce qu'à part le travail, c'est compliqué aujourd'hui, avec les grandes villes dans lesquelles on est, etc. Donc, il faut faire attention, et y compris, j'ajoute une chose, pour les entreprises doivent manier cette affaire avec la plus grande subtilité, parce que quand vous faites ce qui a été fait, je ne donnerai pas de nom, vous allez éloigner tous les talents de demain qui ne viendront pas chez vous. Et aujourd'hui, se priver des talents de demain, parce que le télétravail reste très attractif chez les jeunes, bah vous, y compris, vous aurez des gens qui vont partir avec des, et qui vont emporter des compétences critiques. Et ça, je ne suis pas sûr que ça ait été bien, bien envisagé pour, dans les décisions qui ont été prises. Parce que la volatilité des effectifs ou la non-attractivité des talents, ça coûte très cher à terme.
Alors, puisqu'on parle des jeunes, il y a Gilles qui nous écrit de Bruxelles, nous dit qu'on n'a pas encore évoqué, et il a raison, l'intégration des jeunes et nouveaux, les stagiaires, etc., qui, effectivement, est un défi en télétravail. On revient toujours autour de cette idée, quand même, du management. Ben Emmanuel oui. Lavignac.
Non, mais c'est évident que c'est toujours pareil, ça demande une organisation. Donc, intégrer une personne directement en télétravail n'est pas la meilleure des solutions, mais ça se négocie. Dans les accords collectifs, vous pouvez tout à fait dire qu'effectivement, au début, d'abord, on fait 3 mois sur site en présentiel avant de commencer doucement le télétravail. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accords qui le mentionnent, hein, donc ça existe. Hein.
Oui, c'est déjà envisagé, oui. Finalement.
Bah, pour les entreprises où il y a des vrais accords collectifs vraiment négociés, parce qu'on parlait qu'il y avait beaucoup d'accords collectifs qui ont été mis en place pendant le Covid parce qu'il y avait une urgence. Oui. Par contre, quand vous regardez les accords collectifs, ils sont quand même très très maigres et finalement, oui. Ça
un
n'est
peu bâclé,
qu'une...
finalement, bah, du fait de cette urgence.
C'est juste un rappel du Code du travail. Et donc, effectivement, il y a des clauses de réversibilité qui ne sont pas bien négociées. Il y a effectivement l'arrivée dans le télétravail par rapport aux jeunes générations qui est à peine évoquée. Donc, tout ça devrait être retravailler, repenser.
Tout à fait.
Et ça, c'est le défi du moment, justement, puisqu'on parlait de ces accords cadres un peu bâclés, puisque c'est ce que vous disiez, qui arrivent à échéance. Finalement, le défi des entreprises en France ou aux États-Unis, on voit que c'est aussi beaucoup une réalité aux États-Unis, c'est celui-là aujourd'hui.
Oui, je pense qu'on a vraiment, je dirais, à réfléchir sur cette expérience sociologique incroyable, parce qu'on oublie de le dire, mais, et ça, il faut le dire, le télétravail a permis, même dans ces conditions détériorées, de gagner 10 ans de maturité numérique. Tout le monde est tombé dans le bain. On a gagné 10 ans de maturité numérique. Les gens se sont, en fait, jetés dans la piscine. Ils ont appris à nager, mais ça a été très bénéfique pour l'économie. D'ailleurs, l'économie s'en est bien sortie. Mm-hmm. On a eu une continuité, ça, faut pas l'oublier. Vous voyez, donc, on peut pas faire comme si de rien n'était. Aujourd'hui, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il faut gérer, il faut trouver... Il faut un changement concerté là-dessus. Un changement concerté où on va effectivement faire en sorte de limiter les effets négatifs, parce qu'il y en a, faut dire les choses, et arriver à s'ancrer dans les avantages pour permettre à chacun de donner le mieux qu'il peut. Alors, il y a certains métiers qui le permettent assez facilement, tout ce qui est logiciel, c'est un autre langage. Mais en règle générale, faire sens communément, ça veut dire se voir malgré tout, hein. C'est échanger, créer ensemble. Et donc ça, faut réenchanter les lieux de travail, et c'est compliqué. Et ça ne peut pas se faire sans les représentants du personnel. Ça ne peut pas se faire sans compter sur les salariés, sans avoir une bonne image des salariés. Si vous traitez mal les salariés, ça ne peut pas fonctionner.
Emmanuel Lavignac, très rapidement, je vous écoute.
Oui, alors très rapidement, pour dire une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que le télétravail, c'est pas l'autonomie totale, donc c'est un pis-aller. Je pense que les salariés se servent de ça pour mieux articuler vie pro et vie perso, comme je l'ai dit, mais bien évidemment que la vérité, ce n'est pas non plus que l'organisation du travail à améliorer, il y a aussi, nous c'est ce qu'on demande, une réduction du temps de travail, ce serait ça la meilleure solution pour mieux gérer tant de travail et tant de vie personnelle.
Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Lavignac, je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral FSE-CGT, Jean-Claude Delgen, merci à vous, fondateur du cabinet Technologia, et je rappelle votre dernier ouvrage, Faire face aux risques psychosociaux, guide complet pour comprendre, prévenir et agir, c'est aux éditions Fayol.